Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor.
Web.
Bienvenue à toutes et à tous sur les ondes d'Indifférence, l'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Aujourd'hui, on accueille Samy, en physique à l'ENS de Lyon, et qui a une forme de fatigabilité et une intolérance au bruit. Bonjour Samy.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce que tu as ?
En gros, j'ai eu pas mal d'opérations et j'ai eu un gros passé médical. Je pense que c'est mieux si on se met juste après le moment où j'ai été opéré, parce que c'est à ce moment-là où c'était beaucoup plus fort en fait, mon handicap. Du coup, pour donner une idée, juste, j'étais tellement fatigué que je pouvais pas travailler plus d'une heure par jour. Et surtout, le bruit d'une classe me fatiguait énormément. Et au bout de 30 minutes, je devais sortir, aller boire, faire quelque chose. Et c'est le fait qu'il y ait plein de conversations autour de moi qui, en fait, me rendait tellement fatigué que mon cerveau devenait tout blanc. Genre, c'est comme s'il y avait plus rien qui passait dedans. Et j'avais ça au bout de 30 minutes dans une classe ou de une heure à travailler seul chez moi.
Et juste avant, je voudrais revenir sur la question de la définition. Est-ce que toi, tu te considères handicapé ? Est-ce que tu poses un autre mot ?
J'ai une carte handicapée, donc concrètement, oui, je le suis. Non, pour moi, oui, c'est ça, j'ai un handicap invisible, quoi. Mais encore une fois, en fait, le truc, c'est qu'il est, moi, dans mon cas particulier, il est en évolution. C'est-à-dire qu'il était vraiment beaucoup plus fort il y a 5 ans. Même il y a 2 ans, c'était vraiment autre chose. Donc voilà, donc en fait c'est un truc qui est en évolution et là de plus en plus je me sens, il est de plus en plus faible quoi, il est vraiment, là maintenant c'est presque négligeable quoi.
Mais tu considères que le mot handicap c'est celui qui te correspond le plus ou est-ce que le terme de, je sais pas, de trouble, de différence, c'est des mots qui pourraient te correspondre aussi?
Pour moi c'est vraiment handicap qui me correspond parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme un truc que j'avais en moins vis-à-vis des autres. Pour moi, c'était vraiment pas une différence, quoi. C'était un truc que j'avais, que j'aurais peut-être plus tard. Et pendant un moment, juste, c'est comme si on m'avait, enfin voilà, quoi, comme si je l'avais perdu. Donc, pour moi, c'est vraiment un handicap.
Du coup, tu disais que c'est un handicap que t'as eu après un passé médical assez lourd. Concrètement, à partir de combien de temps tu t'es rendu compte que tu souffrais d'une forme de très grosse fatigue et d'une intolérance au bruit en fait?
Tout de suite, hein. Enfin, pendant que j'étais à l'hôpital, j'étais dans un lit d'hôpital tout le temps quoi, donc forcément je n'allais pas bien et en sortant normalement il y a toujours un temps de convalescence. C'est juste que plutôt j'ai mis peut-être un mois ou deux avant de me rendre compte que ça partirait pas comme ça, et au bout d'une année je me suis fait ah ouais c'est quand même encore bien là quoi, et personne savait combien de temps ça allait durer. Et les médecins non plus et tout, et c'est au bout de 6 mois qu'on a commencé à se dire que ça s'améliorait, mais lentement quoi. Voilà.
Et parce que du coup, ça remonte à combien de temps ?
C'était il y a 6 ans.
Et donc là, tout à l'heure, tu disais que tu as une carte handicapée. Est-ce que concrètement, il y a un diagnostic qui a été posé ?
Ouais, ouais. Alors, un mot particulier, fatigabilité, je crois que c'est vraiment le truc. J'ai pas réussi à retrouver un terme plus précis que ça. Mais fatigabilité et intolérance au bruit, c'est les deux trucs. Et ouais, non, c'est principalement ça.
Et comment ça s'est passé ? Est-ce que le diagnostic il a été posé de manière assez simple, assez naturelle par les médecins qui, justement, après ce mois de convalescence, ont vu que tu ne retrouvais pas une forme d'énergie ou est-ce que ça a été plutôt après, avec potentiellement des psychiatres, des psychologues ? Enfin, comment ça s'est passé exactement ?
Je crois que ça a été de manière assez simple par mes médecins. Et après, je m'en souviens plus très bien, honnêtement. Mais je crois que c'était juste ça quoi, enfin juste j'étais allé voir mes médecins et enfin je leur disais tous les symptômes que j'avais vraiment, enfin que j'avais encore actuellement quoi, et c'était soit eux soit ma mère, mais probablement eux qui ont fait la démarche.
Et parce que là tu parles des symptômes que t'as eu,
Est-ce que tu saurais en dire plus? Parce que là, c'est vrai qu'on parle d'intolérance au bruit et de fatigabilité. Est-ce que tu as des symptômes un peu plus précis pour qu'on se rende compte?
C'est dur à décrire. C'est typiquement, quand je suis arrivé à l'ENS, donc il y a 2 ans, il y avait du coup des amphis de 2 heures. Moi, j'ai jamais pu aller en amphi. Jamais. Parce que j'avais pas assez d'énergie, en fait. J'ai toujours dû faire un choix dans mes cours. Et typiquement, tu vois, j'allais dans aucun amphi et j'allais dans 2 TD sur 3, à peu près. Et si jamais j'allais dans tous les TD, et en fait, vraiment, après être sorti du TD, mon cerveau était blanc et je ne pouvais plus rien penser pendant toute la journée. Et là, du coup, quand je suis arrivé à l'ENS, du coup, il y avait des trucs de 2 heures à la suite. J'étais obligé de sortir toutes les 30 minutes, sinon pour aller boire, pour aller faire un truc, et voilà quoi. Et même, il y avait des cours où je partais en plein milieu pour faire ça, parce que juste, sinon, je savais que ça n'allait pas être possible. Ou autre chose, typiquement, si jamais j'avais une journée de 8 heures, il y avait un moment où j'étais obligé de sortir, de juste arrêter le cours et d'aller faire une sieste de 1 heure à 2 heures pour me reposer, parce que sinon je ne peux pas, tu vois, je ne pense plus, quoi.
Et tout à l'heure, tu disais que tu avais une carte handicap. Est-ce que d'une part, tu pourrais expliquer un peu ce que c'est, en quoi ça consiste? Et d'autre part, peut-être revenir sur qu'est-ce que ça t'a fait d'en avoir une? Est-ce que tu as été soulagé? Est-ce que tu as été content?
J'ai été soulagé qu'il y ait quelque chose qui soit reconnu, ça c'est sûr. Mais ça n'a pas changé grand-chose au final, parce que c'est surtout utile quand tu veux avoir une place assise dans le métro ou... En tout cas, pour moi... Enfin, en fait, c'est... pour les études, c'est autre chose. En général, c'est géré par l'administration de l'école ou de... Voilà. Donc là, c'était géré différemment. Mais sinon, c'est juste pour ça et pour avoir des places spéciales. Enfin, pour se garer, quoi. Et j'avais peu de voitures, donc j'ai utilisé ni l'un ni l'autre, en fait. C'est juste qu'en effet, avoir la reconnaissance, ça, c'est quelque chose.
Et justement, que ce soit à travers le diagnostic ou la carte handicap, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à partir du moment où tu l'as eu?
À partir du moment où j'ai eu le handicap, concrètement, vie sociale vraiment plus faible. Parce que j'avais même pas de temps pour aller en cours, donc j'avais encore moins de temps pour voir des amis. Et avoir une conversation, tu vois, c'était extrêmement fatigant pour moi. Genre, au bout d'un moment, il y avait des fois où je demandais à mes amis de sortir parce que juste je pouvais plus, ça faisait trop, quoi. Et du coup ça change le quotidien. Du coup, tu vois, j'étais obligé de passer énormément de temps à me reposer dans une journée. J'étais obligé de je pouvais sortir. Au tout début, je pouvais faire quelque chose 2 heures par jour. Tout le reste du temps, je devais me reposer. Après, ça a monté petit à petit, tu vois. Typiquement, il y a 2 ans, c'était plutôt 6 ou 7, et maintenant il y a 2 ans, c'était plutôt 4 ou 5, et maintenant c'est plutôt 6 ou 7.
Mais concrètement, qu'est-ce que le diagnostic a changé pour toi? Est-ce que ça t'a permis de vivre ça plus sereinement? Est-ce que...
En fait, pour moi, j'avais déjà des soucis de santé avant, et pour moi, c'était juste la continuité. Du coup, pour moi, tu vois, ça n'a pas changé grand-chose. J'étais inquiété par des trucs plus graves avant, et c'était juste la reconnaissance d'un truc secondaire. Donc au final, ça n'a pas changé grand-chose. Puis c'était en continuité, tu vois. Il y avait des trucs très graves avant, et on s'est dit, maintenant, c'est un peu moins grave, mais c'est là, quoi.
Et donc tu disais que ça a eu un impact sur ta sociabilité, ce qui ouais. Paraît assez illogique. Du coup, est-ce que après ce passif médical assez lourd, t'as pu en parler avec tes amis, avec des gens autour de toi, sur cette fatigabilité et cette intolérance au bruit?
En fait, ce qui était terrible, c'est que chaque fois que j'en parlais, tout le monde me disait « Ouais, mais ça va beaucoup mieux !» Et par rapport à juste avant, quoi. Et du coup... En fait, j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas, parce que du coup, tu vois, entre quand j'étais dans un lit d'hôpital, que je pouvais littéralement pas. Enfin, je pouvais pas bouger, quoi. Rien du tout. Et un moment où je sors, où je peux parler, c'est juste que de temps en temps, je pars, ça se voit moins, quoi. C'est beaucoup moins visible, et du coup, les gens comprenaient plus difficilement, en fait, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ou que c'était pas facile à vivre. En fait, c'était difficile de faire comprendre que c'était pas facile à vivre, quoi.
Oui, c'était difficile de leur faire comprendre que c'était un handicap en soi.
Ouais. C'était difficile à leur faire comprendre que malgré le fait qu'on voit rien de manière visible, il y a quand même un truc qui aille vraiment pas. Et en fait, les gens comprenaient, mais je pense qu'ils minimisaient sans s'en rendre compte.
Et est-ce que du coup, t'as eu des discussions avec ces personnes-là pour essayer de leur faire comprendre que même si c'est pas visible et que c'est peut-être moins grave dans l'absolu que ce que t'as eu avant, ça reste un handicap et ça reste compliqué au quotidien? Comment t'as essayé de leur faire comprendre?
Une discussion où tu finis par pleurer en racontant ça, forcément, ça, ça fait comprendre, quoi. Mais Il y a des gens juste qui comprennent pas et qui comprendront pas. Ça, j'ai fini par le comprendre. Mais bah, j'ai su plutôt bien m'entourer. Donc, les personnes qui étaient là et tout, on comprennent. Et forcément, tu vois, quand ça a fini par avoir un impact sur mes études, mon handicap, forcément, ils se sont dit quelque chose, quoi. Par contre, ce qui est là où vraiment les gens comprenaient vraiment pas, c'est les gens qui m'ont pas connu à l'hôpital. Parce que là, pour le coup, ils me voient juste quelqu'un de normal, qui réussit plutôt bien à l'école. Et donc, juste, ils comprennent pas pourquoi je pars au milieu des cours. Ou... C'est là où c'est le plus dur, en vrai. C'est les gens qui m'ont pas rencontré à ce moment-là.
Et justement, est-ce que dans ces personnes-là qui ne te connaissaient pas à ce moment-là et qui te découvrent là, maintenant, et qui voient que voilà, t'es obligé de partir au milieu du cours, etc., est-ce que quand potentiellement tu t'en parles avec eux, t'es obligé de leur parler d'un diagnostic pour qu'ils comprennent? Ou est-ce qu'ils te croient sans forcément qu'il y ait besoin de ramener le côté diagnostic plus le passé médical qui est derrière?
En fait, si je parle juste de fatigabilité et tout ça, j'ai l'impression que c'est pas assez fort. Et toutes les fois où je l'ai fait, j'ai l'impression que c'était minimisé direct. Et je l'ai assez mal pris. Du coup... Et puis aussi, en fait, si j'en parle juste comme ça, ils vont pas se dire que c'est quelque chose de grave. Parce que fatigabilité, justement, tu vois, ça fait pas... Enfin, c'est pas un truc qui... qui tape à l'oreille, quoi. Tu te dis juste, ok, il est fatigué, quoi. Et du coup, même si c'est des gens que j'aimais bien et tout, ils pouvaient de temps en temps faire des commentaires, genre, ah ouais, genre, typiquement, ça m'est arrivé de me prendre des commentaires sur pourquoi je pars le cours en plein milieu, tu vois. Genre, ah ouais, le cours te fait chier et tout, tu vois. Alors que c'est absolument pas un choix, tu vois. Quand c'était subi de partir au milieu d'un cours, mais en plus, je devais me prendre des commentaires ou des regards. Tu vois, les regards en sortant de l'amphi, ça, c'est terrible. Et voilà, ou tu vois, pourquoi tu t'investis pas dans l'associatif ou des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi, enfin voilà. Et même si je leur ai dit, en fait, c'est juste qu'ils oublient ou qu'ils ont considéré que c'était pas suffisamment important, quoi, entre guillemets. Voilà. Ou qu'ils font pas le lien, en fait, aussi. Vu que c'est invisible, souvent ils font pas le lien entre pourquoi je viens pas et ou pourquoi je suis en milieu d'un cours, ou voilà.
Et du coup, t'as l'impression que dans les gens qui sont autour de toi, il y a peut-être une reconnaissance plus grande du handicap physique et donc potentiellement de ce qui a pu arriver dans ton passé,
ouais, voilà.
Plus que le handicap invisible.
Exactement. Et du coup, en fait, ça fait que maintenant, quand je me prends une remarque et que j'ai pas envie d'expliquer et que je suis juste énervé, en gros, je dis juste ce que j'ai... Enfin, je dis juste ce que j'ai eu avant et là, c'était une tumeur au cerveau. Et juste, je dis, ah non, enfin, pourquoi t'es sorti le cours de fâché? Je dis, non, c'est parce que j'ai une tumeur. Et je laisse un petit silence. Et là, il y a un moment gênant, ils font « Ah ouais, désolé » et tout. Et là, ils comprennent. Mais si je dis juste « Je suis fatigable », c'est pas ouf. Même handicapé, c'est... Enfin, si je veux faire comprendre que vraiment, c'est un truc lourd, c'est la meilleure manière.
Et est-ce que toi, est-ce que toi, ça a changé ta vision sur le handicap invisible? Parce que quand on n'est pas confronté, peut-être depuis toujours, on peut ne pas s'en rendre compte. Est-ce que le fait de d'en être victime, si je puis dire, est-ce que ça a changé ta vision sur le handicap invisible et potentiellement sur le handicap de manière générale?
Ouais. En tout cas, déjà le handicap, je n'avais pas conscience que ça existait. Déjà le mot ou même la chose, quoi. Enfin, je voyais quelqu'un qui avait l'air normal. Pour moi, il était normal et c'est tout, quoi. Et ouais, enfin, je sais pas trop quoi dire de plus. Genre, forcément, ça, vivre les choses dans l'intérieur, ça change beaucoup de choses. Et aussi, voilà, peut-être, pour moi, la plus grosse difficulté du handicap invisible, enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont des handicaps visibles et tout, et qu'on en marre que les gens les prennent en pitié ou quelque chose comme ça, mais le handicap invisible, c'est exactement le contraire. Ce qui est horrible, c'est que personne ne voit et personne ne comprend, et du coup, devoir l'expliquer tout le temps en permanence, c'est vraiment chiant.
Et je voudrais revenir sur les répercussions scolaires, parce que forcément, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Du coup, ça s'est passé, donc il y a 6 ans, donc tu étais au lycée.
Ouais, j'étais en première, fin de première. Enfin, le moment que j'ai passé à l'hôpital, c'était fin de première jusqu'au milieu de terminale, en gros.
Du coup, à ce moment-là, une fois que tu as pu reprendre des cours, tu as continué une scolarité normale? Ou est-ce que tu as fait des... Est-ce que tu as eu une scolarité un peu différente, je sais pas, à l'école à la maison ou ce genre de choses?
Après l'hôpital, de base, au début j'étais juste en convalescence, puis après j'ai eu en effet l'école à la maison, enfin j'ai eu des profs qui venaient me voir et avec qui j'avais des cours de particulier. Donc tu vois, au début je pouvais avoir 3 heures de cours particulier dans la semaine et c'est tout. Peut-être un peu plus, peut-être 4, 5, mais c'est tout. Voilà. Donc au début j'avais que, J'avais que ces cours particuliers chez moi, où du coup on avançait vite. Et petit à petit, j'ai fini par reprendre les cours. Mais enfin, j'ai fini par reprendre les cours. Enfin, dis-toi que je suis jamais allé dans un cours d'histoire ou de trucs comme ça de toute l'année de terminale. Et enfin, juste, je prenais juste des cours de maths et de physique. Et c'est tout.
Et par exemple, pour le bac, est-ce que tu as eu des aménagements particuliers, un tiers-temps
Un
ou des choses comme
tiers-temps,
ça?
ouais. Et déjà, en fait, avant le bac, au cours de l'année de terminale, bah, du coup, j'avais des notes dans deux matières, bah, maths et physique. Et pour les deux, j'avais un aménagement qui était le tiers-temps. Et du coup, pour le bac, c'était pareil, j'ai eu un tiers-temps.
Et pour les études supérieures, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a empêché de faire certaines études? Est-ce que ça t'a...
Bah ouais. Ça m'a carrément empêché. En fait, de base, je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais du coup, après, en gros, après ce moment-là, disons que la physique et les maths, c'était des trucs qui me cadraient, en fait. C'est-à-dire que le fait de développer une logique, de penser de manière logique, quoi, ça m'a. Enfin, j'ai vraiment trouvé beaucoup de réconfort. Et du coup, je m'étais dit que je voulais faire des sciences. Mais du coup, en fait, je ne pouvais pas faire de prépa. C'était complètement impossible. Même les 8 heures par jour de cours, ne serait-ce que sans travailler à la maison, c'était complètement impossible. À l'époque, en première année de fac, je pouvais travailler 3 heures par jour. Et donc, du coup, bah même, j'ai pas eu le, enfin, j'ai fait le choix de prendre assez peu de cours, mais ça a été le strict minimum, quoi. Et en plus de ça, bah du coup, même quand j'étais à la fac, du coup, je pouvais pas aller dans les amphis. J'ai pas suivi un amphi de toute cette année-là. Voilà. Et je travaillais chez moi, je pouvais pas aller dans tous les TD, parce que je disais tout à l'heure. Et du coup, j'ai appris à travailler seul, surtout.
Et du coup, cette situation, parce que c'est une situation puisqu'un choix ou une décision, comment tu l'as vécue? Est-ce qu'il y avait de la colère? Est-ce qu'il y avait de la
Il y
tristesse?
avait énormément de colère. En fait, c'était lié à. Bah, du coup, aussi, le fait d'être seul pendant très longtemps, ça. Enfin, j'étais seul beaucoup. Et forcément, enfin, ça m'a fait remonter d'autres choses émotionnellement, quoi, le fait d'être seul. Mais je l'ai vraiment vécu. Un sentiment d'injustice assez fort, quoi. Enfin, déjà, j'avais vécu des trucs durs avec l'hôpital. Mais en plus, me dire que, en fait, là, ma vie était. Bah, allait être. Pas ce que je voulais pendant un long moment. Forcément, énormément de colère. De la tristesse aussi. Mais en vrai, c'était plus de la rage, je dirais. Et en fait, c'est devenu presque un moteur, quoi, la rage. De pas pouvoir faire tout ce que je veux et tout. Et voilà.
Et cette rage, cette colère, est-ce que elle était générale? Est-ce qu'elle était dirigée vers quelqu'un, vers quelque chose, je sais pas, vers l'institution scolaire ou...
Non, vraiment pas. En vrai, globalement, d'un niveau institution scolaire, moi, j'ai vraiment l'impression d'être bien. Enfin. Non, d'être vraiment bien pris en charge, quoi. Le fait qu'il y ait des tiers-temps, il y avait des personnes qui étaient là, qui écoutaient précisément mes besoins et tout. Globalement, j'ai pas eu. Si, il y avait. C'est peut-être l'indifférence ou l'incompréhension de certains professeurs à la fac qui l'a été douloureuse. Mais c'est tout. Sinon, c'était plus une colère contre la situation, en fait.
Et face à cette indifférence de certains professeurs, comment tu réagis? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu mettre en place en prenant, je sais pas, rendez-vous avec eux, en leur expliquant concrètement ta situation, ou est-ce qu'il y a des gens qui étaient vraiment bornés et qui ont refusé?
En fait, à la fac, du coup, pendant les 2 premières années, c'était le rôle handicap qui contactait tous les professeurs que j'avais pour leur dire, voilà, il a handicap, faut le laisser sortir et tout. Du coup, au final, j'avais pas besoin de faire grand-chose, mais de temps en temps, je me prenais des commentaires quand même, tu vois, du style, on va pas tout changer pour un élève ou quelque chose comme ça, ou alors, ah, mais vous avez encore bien réussi, vous n'avez pas besoin de votre tiers-temps, ou des choses comme ça, quoi. Mais à l'ENS, à la limite, j'en ai. Non, en fait, c'est des regards aussi, c'est ça le truc, c'est que c'est un peu un truc qui est là en permanence, mais qui est dur à expliquer, ou enfin voilà, c'est juste tout le monde qui va regarder. En fait, c'est aussi de la part des étudiants, qui vont aussi me regarder pendant que je vais sortir, ou faire un petit commentaire, genre, mais il est encore sorti, qu'est-ce qu'il fout? Ou apparemment, monsieur n'a pas besoin de réussir, n'a pas besoin de rester pour réussir, ou des trucs comme ça, tu vois. C'était plus ça qui était douloureux, voilà.
Et donc, du coup, j'imagine que le fait de faire, de pas aller en amphi ou de faire moins d'heures de cours que les autres, ça t'oblige quand même à potentiellement travailler plus de ton côté.
Oui.
Comment tu gères ça? Parce que si déjà tu as une fatigabilité qui est très importante, à tel point que tu peux pas aller en cours, comment tu gères le surplus de travail parce que justement tu peux pas aller en cours?
Je fais le choix de ne pas aller dans certains cours alors que je pourrais en termes de fatigabilité, parce qu'il faut que je rattrape les autres pour lesquels j'ai... Enfin, juste, je sais que quand je travaille seul, je suis plus efficace, mais beaucoup plus efficace. Et du coup je me force à pas aller en cours pour aller directement à l'essentiel, quoi. Ou même des fois, quand j'étais en cours, j'écoutais pas ce que racontait le prof et je faisais mes trucs dans mon coin, parce que c'était plus rapide.
Et là, tu parlais du regard des gens. Est-ce que tu as eu l'impression à certains moments, quand tu étais à la fac typiquement, que tu étais exclue, malgré le fait que ce soit un handicap invisible et que ça se voit pas directement sur ta figure?
Complètement. Surtout en première année de fac, en fait, parce que je voyais que tous les moments dans lesquels tout le monde se retrouvait, ou pour manger le midi, ou quelque chose comme ça, en fait, moi, je ne pouvais pas y aller, quoi. Ou même les moments après un cours où tout le monde discutait, y avait tellement de bruit que je ne pouvais pas y rester. Donc moi, j'étais obligé de sortir, de me mettre les mains sur les oreilles et d'attendre que ça passe. Et parce que, voilà, moi, la pause entre les heures de cours, j'étais obligé de la vivre dans le silence. Donc je ne pouvais pas discuter. Et donc oui, forcément, je me sentais beaucoup... Je me suis senti très très isolé, surtout en première année de fac.
Et cet isolement, cette exclusion, est-ce que tu as l'impression que ça venait plus de toi-même parce que tu supportais pas et donc du coup tu préférais sortir du groupe? Ou est-ce que tu as l'impression que c'était aussi du fait des autres qui potentiellement te trouvaient différent, ou alors t'en voulais parce que t'avais quand même des bons résultats malgré le fait que t'allais pas trop en cours et qui t'excluaient aussi?
Il y avait deux choses. Donc ouais, je pense qu'il y avait le côté qui m'excluait. Enfin, juste que. Enfin, c'était un choix, quoi. Que juste voilà, mais pour moi il y a autre chose aussi, c'est juste que bah forcément je passais moins de temps avec eux parce que je ne pouvais pas, et donc forcément on créait moins de liens, et forcément si on créait moins de liens, bah je finis par être plus exclu. Ils finissaient par avoir des délires entre eux que moi je pouvais pas suivre, et donc forcément je me sentais exclu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est juste une histoire purement pour moi c'est une conséquence inévitable, quoi.
Oui, c'est un peu un cercle vicieux.
Voilà.
Et concrètement, cette extrême fatigabilité et cette intolérance au bruit, est-ce que ça t'a, t'as l'impression que ça a atteint certaines de tes compétences? Parce que bon, là on parlait du fait de pouvoir écouter, d'être concentré en cours pendant plusieurs heures. Est-ce que en dehors de ça, t'as l'impression que je sais pas sur ça a eu un impact sur d'autres choses, sur d'autres compétences?
Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par compétences.
C'est assez large. Est-ce que t'as l'impression que je sais pas, je peux prendre l'exemple de choses qui sont pas du tout liées au scolaire, enfin qui sont pas trop liées au scolaire, typiquement la musique. Est-ce que t'as l'impression que ce côté bruit, ça a pu changer des choses sur ta compétence à écouter, à reconnaître des morceaux ou à jouer de la musique, enfin tu vois?
Typiquement, tu vois, je pouvais pas aller en soirée ou en boîte de nuit pendant très longtemps, donc ça, ouais, ça a joué, quoi. Du coup, ouais, non, je pouvais plus sortir le soir, quoi. Donc ça, forcément, ça a joué sur pas mal de choses. Mais en termes de compétences en soi, ouais, au début, au bout d'un moment, je pouvais plus écouter de la musique, j'étais obligé d'arrêter assez vite. Maintenant, ça se sent plus trop au quotidien, mais voilà.
Par rapport à la musique, aujourd'hui tu refais de la musique, j'imagine que ça a été quelque chose qui a été important pour toi dans la vie, la musique. C'est quelque chose qui est quand même important pour beaucoup de gens. Comment tu le vis, ce truc là ou même si t'aimes ça, il y a un moment où ton corps n'est plus capable d'en écouter?
Ouais, maintenant je le vis bien, je te dirais, mais du coup à l'époque c'était un sentiment d'impuissance déjà, parce que je savais que je pouvais rien faire. Vraiment, en fait, pour moi c'est la rage, c'est vraiment ça qui caractérise le plus, c'est le côté, enfin le côté tous les autres peuvent le faire et moi non, et genre tous les jours je suis confronté au fait que tout le monde puisse le faire et pas moi, et voilà, quoi. Enfin, c'est une impuissance qui engendre une rage.
Et là, on a beaucoup parlé du côté négatif, entre guillemets. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a apporté quelque chose de positif? Parce que par exemple, avec l'invitée précédente, elle disait que ça lui a apporté... que ce dont elle souffre, ça lui a apporté une forme de sensibilité, notamment une sensibilité au beau. Est-ce que tu as l'impression que toi, ça t'a apporté une sensibilité, une plus grande empathie, une plus grande ouverture d'esprit ou des choses comme ça?
Ça m'a apporté énormément de choses. C'est déjà le fait de passer beaucoup de temps seul, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. Ça rend différent, mais ça rend vraiment fort, quoi. Enfin, typiquement, les choix que je fais, tu vois, je sais que je les fais... Enfin, parce que c'est vraiment moi qui choisis de les faire, quoi. Et ça m'a permis de me connaître vraiment beaucoup mieux moi-même, de passer autant de temps seul. Donc ouais. Et puis aussi, c'est ce que tu disais, mais... Enfin... Ça finit par créer de l'empathie avec des gens qui sont... qui sont différents, quoi. Dans le sens où souffrir, c'est toujours une bonne manière de se créer de l'empathie. Au moins. C'est parmi d'autres choses. Mais ouais.
Et est-ce que tu as l'impression que ces choses-là, que ça a pu t'apporter en positif, voilà, aimer être seul, avoir une empathie peut-être plus grande et comprendre les autres, est-ce que ces choses-là, ça t'a permis de peut-être de mieux accepter d'avoir cette. Encore une fois, cette fatigabilité et cette intolérance au bruit.
Ouais. J'ai fini après, peut-être... Ouais, non, j'ai vraiment fini par l'accepter, par l'aimer. Même, tu vois, ça m'a aussi appris à être super efficace quand je travaille. Ça m'a appris justement à trouver le truc qui fonctionne pour moi, comment travailler. Et il y avait une autre... Oui, voilà, maintenant, ça m'a fait... Enfin, désolé, je réponds à la question d'avant encore, du coup. Mais... en gros... J'ai l'impression de beaucoup plus profiter les choses simples aussi. Bon, maintenant, je finis par... Enfin, maintenant, ça va quand même mieux. Donc, ça commence un peu à partir. Mais pendant longtemps, vraiment, juste prendre un verre avec mes potes, même d'eau, tu vois, c'était incroyable. Ou juste pouvoir manger le midi avec des gens, je trouvais ça incroyable, quoi.
Et maintenant, pour revenir un peu sur ta scolarité au sein de l'ENS, parce que c'est un système qui est un peu différent de la fac, est-ce que tu as eu des aménagements en particulier, que ce soit au niveau de, je sais pas, de l'admission peut-être, même enfin, une fois que tu as été pris au niveau des cours, comment ça s'est passé?
Alors, ma fierté, de base, dis-toi que je voulais même pas prendre de tiers-temps à la fac ou l'ENS ou nulle part, quoi. Et j'ai fini par en prendre à la fac, mais du coup, je voulais absolument que ce soit pas mentionné dans mon dossier. Mon handicap. Et je l'ai pas mentionné. Du coup, ça a absolument pas joué là-dessus. Du coup, ensuite, une fois que je suis arrivé à l'ENS, bah, du coup, il y avait. En fait, je crois que dans toutes les grandes universités, il y a un relais handicap. Et du coup, je suis allé voir celui-là. Du coup, j'ai expliqué mon handicap, tout ça. En vrai, je trouve que ça a été un peu moins bien pris en charge ici qu'à la fac. Parce qu'à la fac, du coup, ils faisaient beaucoup de choses pour moi, ils contactaient les professeurs, tout ça. Là, j'avais. Essentiellement, j'ai un tiers-temps.
Et concrètement, le tiers-temps, du coup, il est utilisé que lors des DS,
ouais.
Des examens, etc.
C'est ça. Typiquement, en fait... Ouais, non, c'est ça. Genre, typiquement, tu vois, pour les projets à long terme et tout ça, bah, ça sert à rien, quoi. Enfin, si j'ai un projet sur une semaine ou sur un mois ou sur un... Enfin, ça sera pas utilisé, quoi.
Et typiquement, si t'as encore besoin de sortir pendant les cours, etc., c'est quelque chose qui t'est autorisé?
Ouais, bah du coup, oui. Bah, en fait... Ouais, enfin je me prends toujours des regards, mais oui, ça m'est autorisé. Et ça m'est arrivé aussi quelquefois de le communiquer à un TD-man ou un prof, juste pour dire bon, mais je vais sortir, mais voilà. Et en général, c'est très bien pris, quoi.
Et je me demandais, là tu disais que tu as refusé que ça soit écrit dans ton dossier quand tu étais à la fac.
Ouais.
Pourquoi du coup aller voir quand même le relais, enfin, le relais?
En fait, je voulais pas être pris à cause de mon handicap, je voulais pas avoir de bonus à cause de ça. Mais par contre, dans les examens, en fait, pour moi, c'est une maigre compensation du fait que je puisse pas aller en cours. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste que ça me simplifie quand même un peu la vie, quoi. Enfin, ça m'oblige à travailler moins. donc ça, je prends, quoi.
Et là, on parle de scolarité maintenant, mais est-ce que t'as l'impression que pour l'après, ça te soit ça t'a fait réfléchir à d'autres voies, peut-être, que t'avais pas envisagées. Est-ce que ça t'a mis des barrières? Comment tu réfléchis l'après avec ce handicap-là, même si ce que tu disais au début, c'est que ça a quand même, un peu amélioré. En tout cas, ça va de mieux en mieux.
Ouais. En vrai, je me suis rendu compte que j'aimais bien avoir du temps pour moi pour... En fait, même si j'étais incapable de travailler justement sur des sujets scientifiques ou des trucs comme ça, je pouvais encore faire des trucs physiques, tu vois. Genre typiquement, j'ai appris à faire de la magie ou des trucs comme ça, où au final, je me répétais toutes les mêmes gestes devant un miroir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai adoré... Enfin, j'aime bien prendre plein de trucs, quoi. Et j'adore apprendre. Et du coup, je me suis rendu compte que dans mon futur, bah, du coup, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Et forcément, oui, ça change. Enfin, j'ai pas envie d'avoir un boulot où je travaille énormément. Enfin, j'ai appris à apprécier le temps que je prends pour moi. Voilà. C'est ça que ça a changé dans l'après.
Mais du coup, est-ce que t'as l'impression que ça a changé tes rêves? Que tes rêves
ah oui.
Entre le avant et après ont vraiment été modifiés?
Ouais, clairement. En fait, mes rêves ont beaucoup fluctué, ont beaucoup changé. Mais avant, j'envisageais ingénieur ou médecin ou quelque chose comme ça. Et maintenant, plus du tout. En fait, enfin, j'ai pas envie de passer une journée à travailler trop, quoi. Du tout. Enfin, je peux faire prof, quoi.
Et du coup, là, tu disais que tu voulais faire, que tu as voulu faire médecine à un moment. Est-ce que tu penses que le fait de passer de l'autre côté, donc d'avoir été toi-même patient, ça a pu jouer un rôle sur le fait que tu voulais plus faire ça?
Non, à la limite, ça m'a plus encouragé à le faire. Parce que mes médecins étaient eux-mêmes des gens qui étaient passés par l'hôpital aussi. D'ailleurs, mon médecin le plus attitré, quoi, en gros, voulait faire physicien avant. donc non, en fait, j'ai vu que c'était un milieu vachement... pour le coup, c'est un milieu vraiment humain, quoi. Et du coup, non, ça m'a... Le métier me paraissait bien, mais les études et l'investissement... que ça demandait en termes de temps me plaisait pas.
Et là, je vais te demander, là tu commences une année de césure, est-ce que tu as l'impression que cette année de césure, elle est là aussi parce que tu as besoin de faire une pause, notamment liée à ta grande fatigabilité.
Ouais, si tu veux dire. Du coup, ouais, exactement. En fait, tu vois, j'ai pas pris de pause, j'ai pas redoublé d'année, je me suis pas arrêté depuis la terminale. Et l'air de rien, bah il y a un moment où où je me dis que bah je sais pas, j'ai besoin aussi de, en fait, de pas avoir la pression des cours, parce que l'air de rien, je me suis pas mal réfugié dans la pression des cours. En fait, ça me donnait un objectif à court et moyen terme, et là j'ai senti que j'avais besoin de temps pour juste pour vivre ma vie, pour faire d'autres choses, pour explorer, pour voilà, quoi. Et aussi, l'air de rien, pour me préparer à la suite de mes études, parce que je pense que me reposer, en fait, c'est la meilleure méthode pour faire en sorte que ça aille un peu plus vite, mon rétablissement, quoi.
Et tu me disais tout à l'heure, hors antenne, que tu penses potentiellement partir en Colombie. Est-ce que tu n'as pas une peur que, comme c'est une autre culture, avec d'autres modes de vie, et potentiellement d'autres manières de voir le handicap, les gens ne comprennent pas et du coup, que tu n'arrives pas à t'adapter au mode de vie sur place?
En fait, maintenant, mon handicap, il est vraiment moins fort. Là, cette année, tu vois, je fais vraiment... en fait, il est plus là, cette année, vu que j'ai plus les cours et tout ça, il est presque plus limitant sur les choses que j'ai envie de faire. Tu vois, c'est seulement quand je me dis, bon, bah, j'ai un petit peu travaillé pour préparer l'année prochaine, que là, après une heure, bah, je me rappelle, quoi. Et voilà. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je disais aussi... antenne, mais en fait, c'est aussi une difficulté à la concentration au bout d'un moment, quoi. C'est-à-dire que je peux pas rester concentré sur un truc pendant trop trop longtemps.
Et donc là, tu dis que c'est quand même, ça va quand même de mieux en mieux, même si tu ressens encore cette grande fatigabilité. Est-ce que tu sais si un jour ça pourra disparaître?
Je sais pas si... désolé, c'est à la matheuse, mais je sais pas si... Enfin, c'est une exponentielle décroissante, à peu près, donc je sais que ça s'améliore avec le temps, mais je sais pas si ça tend vers quelque chose de normal, ou si ça tend vers quelque chose de plus fatigable que la moyenne des gens, en fait. Et ça, je peux pas savoir. Je pourrais le dire dans 5 ans. Peut-être plus.
Et les médecins ou le corps médical ne sait pas non plus dire...
Non. Je crois qu'ils m'avaient dit que ça tendrait probablement vers quelque chose de moins bien, je serais plus fatigable que la moyenne des gens, mais c'est pas possible de savoir à quel point avant d'y être.
Et justement, est-ce que par rapport à ça, tu as pu discuter avec des gens qui ont potentiellement subi les mêmes opérations que toi et qui, du coup, ressentent aussi cette fatigabilité?
C'est trop spécifique. J'ai eu... En fait, j'ai surtout que j'ai eu plein de complications. J'étais censé avoir une opération, j'en ai eu 8. Et j'ai eu plein de trucs hyper spécifiques. Enfin, je suis en cas ultra particulier. Je suis en cas d'école. Concrètement, c'est ce que me disent mes médecins. Donc, non. Et puis en plus, j'étais dans un hôpital où il y avait très peu de gens qui avaient même la même maladie initiale que moi. Donc, ça fait que non, j'ai rencontré extrêmement peu de personnes. Après, du coup, il y a quelques fois où je suis parti dans des voyages pour des personnes qui avaient eu la même maladie que moi. Mais enfin la même maladie initiale, mais même là en fait c'était extrêmement différent parce qu'ils avaient absolument pas les mêmes conséquences. Mais quand même, il y a quelques points où on se retrouvait les uns avec les autres, ou le fait de, enfin, que malgré le fait que ça se voit pas, il y a encore des conséquences ou des choses comme ça. Et là pour le coup, bah, connecté là-dessus, c'est quand même, ouais, ça m'a apporté quelque chose, quoi. Enfin, ça m'a soulagé, quoi.
Et je me demandais dans quelle mesure il existe un traitement, que ce soit médical ou même juste à base de, je sais pas, de vitamines ou de choses comme ça qui peuvent t'aider.
Il n'y en a pas. Hein. Moi, c'est vraiment, c'est que le. Enfin, en tout cas, on m'en a pas donné. Hein. Si jamais il y en a un. Non, pour moi, le truc qui a le mieux marché pour que ça s'améliore un petit peu, c'était d'avoir un mode de vie extrêmement sain. Genre. Faire très attention à ce que je mange, comment je me couche, à faire du sport le matin quand je me réveille, faire de la méditation, des trucs comme ça.
Je me demandais aussi, là on est à l'ENS, donc c'est quand même un espace où il y a une vie associative assez importante, même si ton handicap est moins présent aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce qu'il était il y a 2 voire même 5 ans, est-ce que tu arrives à avoir une vie associative qui te convient ?
Quand je suis arrivé à l'ENS, je me suis dit que j'allais m'investir nulle part à 100%, parce que... Mais que j'allais papillonner, quoi, en gros, à droite, à gauche. Et en fait, il y a eu le Covid, donc c'est un peu dur à savoir. Mais j'avais une vie associative que je trouvais plutôt sympa en première année de NS. Justement, je faisais des murders, je papillonnais, quoi. Je faisais le club photo, je faisais beaucoup de choses, mais un peu, tu vois.
Et là, en ce début d'année, même si tu pars très bientôt, enfin que tu quittes Lyon très bientôt, est-ce que là, en ce début d'année, tu as pu t'investir un peu dans des assos?
Non, pas du tout. Justement, vu que j'allais partir assez vite, je me suis dit que ça valait pas le coup. Puis, je me suis surtout investi dans la musique, en fait, cette année. Moi, j'ai fait 2 concerts à l'ENS. Puis c'est tout.
Et c'est déjà pas mal, en vrai.
Ouais. Et il y en a un troisième qui arrive.
Et enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'œuvre, que ce soit littéraire, filmographique, théâtrale, peu importe, qui a pu t'aider ou te sentir moins seul par rapport à ce que tu traversais?
En vrai, j'en ai 2. J'ai le film Passion de Grand Corps Malade. Qui est. Il y a tout. Pour moi, il y a vraiment tout dans le jeu, dans le film. Il y a les moments où on s'ennuie, il y a les moments où on rigole, et il y a le côté humain de l'hôpital. Il y a le côté. Bah, c'est fini, et en fait, c'est pas fini, quoi. C'est vraiment. Pour moi, c'est un super bon film. Et il y a la chanson À l'horizon de Kerry James, que j'ai écouté en boucle, mais vraiment en boucle pendant des années, qui est un peu. Bah, qui. Ouais. Même en fauteuil roulant, tes rêves peuvent encore courir. Enfin, il y a plein de petites phrases comme ça, tu vois, ou juste.
À l'horizon.
Qui m'ont beaucoup porté, quoi.
À l'horizon. T'es incarcéré, mais un beau jour, tu vas sortir. Te réinsérer, en fin de compte, fonder un empire. Les regards accusateurs, tu t'en fous, tu les feras mentir. T'as le droit de devenir meilleur, toi qui as toujours connu le pire. Espoir brille à l'horizon, laisse ses rayons t'éblouir. Quelle que soit tes lésions, tu finiras par guérir. Tes rêves peuvent encore courir, même en fauteuil roulant. L'espoir, c'est comme un sourire dans ton cœur, il prend son élan. Tu peux encore construire, même sur des ruines, tout recommencer, partir. Et changer de vie, changer de vie, changer de ville, changer d'île, changer de vision. Savoir ce que c'est que d'être libre en t'évadant de ta propre prison. Le bonheur à l'horizon, faut juste pas être peureux. On se trouve facilement.
Ah, merci beaucoup, Samy.
Avec plaisir.
Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor et produite par Marie Brunner.